La coiffeuse aux accents de naissance. De l'innocence. Toujours ce petit jeu de mots qui démarre cette émission étrange, née suite à l'initiative de Milana Volodchenko, la cofondatrice du festival Blues en Aveyron et la créatrice du parfum Gentiane Caviar de Braque. Posez vos affaires, détendez-vous et mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Elle est là pour vous guider dans votre vie. Son nom de l'émission, ambigu et étrange, la coiffeuse aux accents, a pour but réveiller vos esprits et vous amener vers d'autres plateaux de votre conscience. Si vous voulez bien nous suivre, bien évidemment, cachez vos peignes. Nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrai. Je vous invite donc à vous décoiffer soigneusement et aller à l'essentiel, vers la magie de nos sens, olfactif, auditif, gustatif, visuel, tactile et celui sixième, si recherché et espéré. La magie de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions et ses souvenirs que l'on respire et qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième, le fameux chemin vers la volupté intérieure et navouée. Et cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la devanture d'un fleuriste au printemps et soudain, une bouffée de jonquilles nous ramène à notre enfance. Un certain jour de Pâques ou de Noël. Si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques brins de sapin dans les jonquilles. Enfant, une gousse de vanille et on se souvient du baiser maternel. Tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grandes-mères, les porte-manteaux de nos grands-parents s'en souviennent. Cette émission d'aujourd'hui est dédiée à la défense contre la sexualisation des enfants et nous sommes très honorés de recevoir sur notre plateau radiophonique, Marion Sigaud, bourguignon de racines et de domicile, qui découvre l'Aveyron dans le cadre de la masterclass de Fabrice Ullery, le pianiste.
Bonjour.
Qui ne nécessite plus être présenté sur les ondes de la CFM Radio. Marion, vous êtes historienne, 18e-iste, et le sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la défense contre la sexualisation des enfants. Selon vous, l'être doit être protégé contre la sexualisation. J'espère que je l'ai bien prononcé.
Oui, c'est un petit peu compliqué.
Et je vous invite donc de porter votre témoignage et peut-être au début, nous donner la définition de la sexualisation, si vous voulez bien.
Voilà, la sexualisation des enfants, c'est le phénomène que l'on remarque depuis maintenant de nombreuses années, qui consiste à infliger aux enfants de plus en plus jeunes, et maintenant, enfin, j'ai regardé les programmes tels qu'ils sont diffusés par les grandes agences des Nations Unies, c'est pratiquement dès le berceau, de leur infliger une connaissance de la sexualité humaine, ce qui est un crime contre l'enfance. Il y a encore, je pense que ces lois n'ont jamais été abrogées, mais enfin, elles ne sont plus appliquées, des délits et des crimes qui s'appellent l'attentat à la pudeur, ou le détournement de mineurs, qui consiste à infliger des images explicites à des enfants pour les choquer. À l'heure actuelle, ces images explicites de la sexualisation des adultes sont infligées aux enfants, à l'école, dans le système. C'est devenu une politique mondiale, c'est chapeauté par les Nations Unies, avec notamment en tête l'Organisation Mondiale de la Santé, puisque maintenant on parle de santé sexuelle, comme si ce mot avait une quelconque signification. Pour moi, ça ne veut rien dire. Donc vous avez l'Organisation Mondiale de la Santé, vous avez l'UNESCO pour ce qui concerne l'éducation. Tout ce qui concerne l'éducation est maintenant rattrapé par cette pseudo-nécessité d'infliger le sexe aux enfants, enfin la connaissance du sexe. Et c'est pas seulement la connaissance, c'est la visualisation par des dessins explicites, absolument horribles, infernaux. Infliger aux enfants ce genre à la fois de discours et d'images relève des tribunaux et à l'heure actuelle, c'est le système qui le promeut. C'est une horreur. Alors il y a une source à ça, il y a une origine. L'origine est la même pour tout le monde. C'est un certain Alfred Kinsey qui, à la fin des années 1940, on va dire les années 40, a promu, enfin, il n'a pas promu, il a écrit un pseudo-rapport qui est totalement bidonné, enfin c'est un faux rapport, c'est un rapport de construction.
Idéologique.
Tout à fait idéologique, puis de mensonger. Je vais raconter la petite histoire. Kinsey, qui était chercheur en entomologie, il était spécialiste des insectes, donc il n'avait rien à voir avec la sexualité humaine, il a été recruté par l'Institut Rockefeller et par derrière par la CIA pour renverser la morale de l'Occident, pour contribuer à renverser la morale de l'Occident. Renverser la morale, c'est faire que ce qui était bien devient mal, ce qui était mal devient bien, ça s'appelle le renversement des valeurs. Et on lui a donné comme tâche de faire une recherche qu'on dira scientifique et qui ne l'était pas, sur la sexualité humaine. Concernant, c'est lui qui a décrété que les enfants sont sexuels dès la naissance. Alors, pas sexués, c'est même pas depuis la naissance, c'est depuis la conception. On est mâle ou femelle, on sera un homme ou une femme, un garçon ou une fille, ça c'est la nature qui le dit. Mais sexuel, ça veut dire, Alfred Kinsey a affirmé, et il a écrit dans un rapport, les enfants ont des désirs sexuels, c'est-à-dire un désir de recherche de la jouissance vers un partenaire dès leur naissance. Et pour étayer cette affirmation, il a fait état d'un rapport d'observation sur plusieurs centaines d'enfants de la naissance, c'est-à-dire depuis les nouveau-nés jusqu'à 11-12 ans, disant que des expériences prouvaient que ces enfants avaient des orgasmes suivant certaines stimulations. On stimulait des enfants alors il donnait pas le détail, mais on peut les comprendre à travers les lignes. On stimule les enfants, ils sont capables d'avoir des orgasmes, et il a fait un rapport qu'il a publié dans un livre qui s'appelle La sexualité des hommes, qui est paru à la fin des années 40, et ensuite ça a été repris pour La sexualité des femmes, mais c'est surtout celui sur la sexualité des hommes qui est le plus parlant. Il a fait un rapport, un tableau dans lequel il dit tel enfant de 3 ans est capable de 6 orgasmes en 24 heures ou de tant d'orgasmes. Et ce rapport a été publié dans le monde entier. Ça a été l'origine de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. C'est-à-dire que la sexualité, jusqu'à l'apparition de Kinsey, c'était l'affaire du couple marié dans le but de créer une famille, de la procréation. À partir de Kinsey, le sexe, c'est un jeu, c'est une recherche de la jouissance, c'est un loisir, et en plus, c'est un droit. C'est-à-dire qu'on invente le droit de jouir. Et le droit de jouir, à partir du moment où la sexualité implique un partenaire, c'est un droit sur l'autre. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est absolument terrifiant. On finit par inventer un droit sur l'autre. Et ce droit, on l'attribue aux enfants, d'après Kinsey, puisqu'ils sont capables d'orgasme dès la naissance. C'est-à-dire que Kinsey est le point de départ d'une politique qui maintenant ravage le monde entier, qui consiste à dire les enfants ont le droit d'être informés dès leur plus jeune âge sur tous les mécanismes de la sexualité humaine, c'est-à-dire la sexualité adulte. Puisque quelle est la différence entre un enfant et un adulte? C'est précisément que l'enfant est pré-sexuel. Et là, ça devient l'abolition de toute frontière entre les adultes et les enfants.
Mais en fait, Marion, par rapport à ce que vous dites, il y a une question aussi qui me traverse l'esprit. À votre avis, déjà, s'intéresser et faire ce genre de recherche, est-ce que cela vous paraît légitime de s'intéresser à la sexualité des enfants
en tant que
telle?
Alors, mais bien sûr que non. Alors, je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a quand même un loup derrière cette pseudo-recherche. Alors, la découverte de cette recherche, on a droit à une dame dont je m'honore d'avoir été l'amie et qui fut mon amie et qui est maintenant décédée depuis le mois d'avril dernier, avril 21. Cette dame, c'est Judith Reisman. En étudiant de très près, les tableaux et en interviewant des gens qui avaient participé à cette fameuse recherche, elle s'est rendue compte que ce qu'on appelait des orgasmes, et tel que ça a été défini, c'est-à-dire que c'est incontestable et incontesté, ce qu'on appelait les orgasmes, c'était les hurlements, les convulsions, les évanouissements et les tentatives de fuite d'enfants manipulés.
Mais donc tout était bidon alors.
Mais
ce
c'est,
rapport était bidon.
C'est, on a considéré comme orgasme le résultat de viol. Et la personne dont Kinsey s'est servi pour manipuler ses enfants était un pédophile notoire. C'était un monsieur qui s'appelait Rex King, c'est-à-dire que toute la politique mondiale actuelle, ça va se nicher dans tous les recoins. L'éducation nationale en France et toutes les associations et tous les mouvements qui ne veulent pas de discrimination contre les homosexuels, par exemple, autorisent des homosexuels à venir parler de leur expérience dans les écoles.
Et des ONG très puissantes aussi.
Absolument.
Et des ONG on pourra carrément conclure que ne serait-ce que s'intéresser à ce genre de sujet et puis faire des recherches, c'est déjà une forme de pédophilie.
Mais absolument, absolument. Alors, bon, Kinsey lui-même n'était pas pédophile, c'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas pour lui-même à consommer des enfants. Mais il s'entourait de gens qu'il faisait, puisque c'est ça dont on s'est servi. Et puis, surtout, je pense que c'était ça le but de ceux qui l'ont financé à faire ça. Lui était un homosexuel qui s'intéressait à avoir des rapports sexuels avec des hommes adultes, avec des hommes faits. C'était un homosexuel actif. Voilà. Pardon. La révolution sexuelle mondiale qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui et qui nous met du sexe absolument partout a été menée par un homosexuel entouré de pédophiles et de pédocriminels. Et ça, c'est incontestable et incontesté.
Merci Marion. Vous avez écrit plusieurs livres qui défendent ce sujet. Est-ce que vous pouvez citer des titres et,
oui.
Et leur nombre, s'il vous plaît? Alors, et où on peut les trouver?
Voilà, alors c'est un peu difficile. Il y a deux livres essentiellement qui traitent du sujet, parce que j'en ai écrit beaucoup d'autres. Alors, si vous voulez, à partir du moment où j'ai commencé à enquêter sur le sujet, j'ai enquêté sur l'époque, j'ai enquêté sur les tenants et les aboutissants de ces choses-là, et puis j'ai remonté le cours de l'histoire. Donc j'ai fait beaucoup d'autres sujets que celui qui touche au trafic d'enfants. Mais le dernier livre que j'ai écrit sur le sujet, je l'ai publié chez l'éditeur Sigest, petit éditeur tout à fait sérieux et absolument remarquable, Jean Sirapian. Et l'édition Sigest a publié, il y a 2-3 ans maintenant, un livre qui s'appelle « Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille ». Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Nations Unies ont inclus dans les droits de l'homme les droits sexuels. Et le droit sexuel, c'est le droit de jouir. Est-ce que vous imaginez le truc? Comment est-ce qu'on peut faire intervenir le droit dans quelque chose d'aussi intime et de personnel que la jouissance? Le droit de jouir, c'est une infamie, c'est une abomination. Et les enfants ont le droit de jouir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner aux enfants le droit de jouir, c'est donner aux enfants le droit d'envoyer promener leurs parents quand leurs parents veulent leur imposer une conduite digne. C'est-à-dire que dans les droits sexuels, une fille, par exemple, que son père va morigéner parce qu'elle s'habille comme une putain, va pouvoir faire condamner son père et quitter le foyer paternel si la logique est menée à son terme.
C'est aussi une forme de viol dans la mesure où c'est une mainmise sur la spiritualité des gens en devenir, des personnes en devenir. C'est-à-dire que au lieu que l'enfant, en grandissant, découvre lui-même sa sexualité et découvre, enfin, au travers de sa propre expérience, de vivre sa vie finalement, eh bien, on s'en empare, on la lui subtilise pour lui imposer un modèle uniforme en plus. Hein, c'est-à-dire que on lui impose, on essaye d'imposer à tous les enfants du monde finalement un modèle unique. Je voudrais parler un petit peu de musique, mais c'est pas encore mon
tour.
Ça
va venir.
Oui, hein. On a un petit peu la même chose en musique, mais j'en parlerai plus tard.
Oui. Ouais,
oui. C'est-à-dire on a une subtilisation de la spiritualité des jeunes.
Mais c'est absolument, c'est dans le programme. C'est-à-dire que dans les différents documents que j'ai étudié tous les documents qui ont été publiés sur le sujet par toutes les agences des Nations Unies et puis d'autres documents qui ont été publiés par le gouvernement français, on estime, on dit, c'est écrit noir sur blanc, que les droits sexuels s'opposent à la morale et à la religion. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la morale et la religion, qui sont les liens qui créent la possibilité aux humains de vivre ensemble sur des valeurs communes, sont considérés comme ennemis des droits sexuels.
En fait,
c'est-à-dire qu'on fabrique des prédateurs qui vont avoir tous les droits au titre « j'ai le droit de jouir ».
C'est-à-dire que ce qu'il faudrait dire aux gens qui n'aiment pas les religions, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en réalité, ça n'est qu'une religion de plus, qui est sectaire par-dessus le marché, et qui a la prétention de s'imposer à tous.
C'est exactement ça. Alors, ça va même plus loin. Ils disent pas que les grandes religions, c'est les religions s'opposent, mais ils disent la tradition s'oppose. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent créer un monde, un homme nouveau, qui sera une bête sexuelle, qui sera dévouée. On excite les enfants dans les petites classes. J'ai vu des témoignages terrifiants. On excite les enfants à s'inspecter mutuellement l'appareil génital et à se tripoter, etc. Je veux dire, c'est monstrueux. En leur disant, c'est ton droit. C'est ton droit. On fabrique des monstres. On fabrique des monstres.
Alors Marion, selon vous, est-ce qu'il y a un âge à laquelle on peut se donner cette liberté à y penser, ou c'est quelque chose de personnel et très individuel?
Je pense que c'est personnel, et puis ça regarde les familles, ça regarde les parents. Moi, j'ai un grand respect pour la fonction parentale qui est en train d'être totalement abolie. Moi, je regarde comment j'ai été initiée à la connaissance de ces choses-là. Moi, j'ai reçu une double influence. l'influence de la religion dans laquelle j'ai été élevée. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, mais on ne parlait pas de ces choses-là quand j'étais gamine. J'ai eu ma maman. J'ai eu ma maman qui m'a quand même transmis beaucoup de choses. Et puis après, il y a le souffle de mai 68 qui est arrivé, qui a tout balayé. Et qui nous a mis à plat. Hein, qui nous a mis à plat. Ça a été une destruction monstrueuse. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un âge. Ça dépend qui, ça dépend quand, ça dépend quoi. Et c'est le rôle des parents. Et si on veut subtiliser aux parents la sexualisation pour tous, bon ben voilà, on est dans une fabrique de monstres. Si on veut rétablir la morale, la notion de bien et de mal et de comportement décent ou indécent, il faut rendre aux parents et puis les aider. Je pense que les parents ont beaucoup beaucoup besoin d'être aidés. Le plus souvent, les parents sont pas aidés quand ils ont des difficultés. On leur enlève leurs gosses et de plus en plus. Alors que l'idée, c'est quand même de les aider.
Bon, bah, et là, la question récurrente de notre émission, est-ce que la musique, ça peut être une solution dans le cadre d'éducation? Et est-ce que la musique peut infliger une autre forme de compensation?
La musique est une forme de liberté et cette sexualisation outrancière des enfants est une fausse liberté en réalité. Elle est présentée comme une libération. Ça fait 60 ans qu'on nous fait le coup depuis les années 60. Donc, alors qu'en réalité, c'est un asservissement. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord pour retourner vers les traditions, les modèles qui ont été battus en brèche à cette époque-là, il faut leur dire que, de toute manière, cette fausse liberté, cette proposition est un leurre.
Mais on dit souvent aussi que des musiciens font l'amour avec leurs instruments. Est-ce
voilà,
que c'est
à dire les voies de la liberté sont multiples. Il s'agit d'aller vers la spiritualité et la véritable liberté, c'est de laisser l'enfant se découvrir d'abord quand on parle de sexualité et puis quand on parle de spiritualité, si on parle de musique, c'est également de découvrir la musique.
Est-ce qu'il y a un répertoire musical qu'on peut conseiller
aux enfants?
Il
peut être guidé, mais justement, l'enfance est vierge, elle est, j'allais dire innocente, ça n'est pas tout à fait le terme, mais on abuse de la naïveté des enfants en essayant de leur imposer un modèle, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Et dans la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez à la fois une éducation didactique et barbante qui consiste à leur faire écouter des œuvres de musique savante sans leur donner aucune référence, parce qu'au départ, ils n'ont pas eu accès à leur propre folklore, à leur propre racine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, Chopin écrivait d'après les mazurkas. Toutes les musiques savantes se basent sur des racines populaires. Beethoven, la pastorale a été écrite d'après une ambiance rurale, allemande, etc.
Et ce serait adapté pour contribuer à la bonne éducation d'un enfant, de faire écouter ce genre de musique. Vous le conseillerez dans tous les cas.
Oui, mais pas de but en blanc. C'est-à-dire qu'on leur balance ça comme quelque chose d'évident et de tout cuit, ce qui fait qu'ils vont immédiatement se réfugier dans ce que leur propose l'industrie musicale, c'est-à-dire dans le rap. Et il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a aucune mesure. Hein, c'est-à-dire on est soit dans le didactique barbant, déjà lui-même déraciné. Berlioz, eh bien, vient du Dauphiné. Quand on connaît le Dauphiné, on comprend la symphonie fantastique. On comprend pourquoi il a écrit ça. Hein, ce roulement de timbales, les orages, quand on regarde le Vercors, les orages qui se préparent, qui grondent, etc. C'est ça qui lui a inspiré les roulements de timbales très doux au départ de la symphonie fantastique.
Et d'ailleurs, on conseille énormément l'écoute de la musique classique aux femmes enceintes. Ça, l'éducation déjà.
Voilà, mais on ne devrait pas parler de musique classique, on devrait parler de musique savante. On devrait parler de musique savante, sachant que la musique savante, au départ, c'est une musique qui se base sur des traditions. À partir du moment où on a fait une musique abstraite, à partir du milieu du XXe siècle, qui ne se basait sur aucune tradition, mais sur des calculs, là, c'est devenu de la musique savante tout court. Voyez,
c'est-à-dire que et ça vous dérange.
Il y avait unique. C'est, moi, ça me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ça me dérange pas. Mais il faut pas s'étonner que les gosses décrochent complètement. Parce qu'on enseigne, la musique dite classique, on l'enseigne comme ça. On l'enseigne comme ça. Il faudrait d'abord enseigner. Il faudrait d'abord danser, faire la fête avec la musique, le folklore. les traditions. Évidemment, j'entends tout de suite des gens qui vont me dire « Ah, c'est ringard !» Mais c'est ringard parce que vous ne me connaissez pas.
Mais moi, je suis ringarde, voilà. Et je me revendique, j'aime bien être ringarde. Moi, j'ai appris, quand j'étais à l'école primaire, j'ai appris à danser des petites danses folkloriques sur du Mozart. Ta 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 la 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 la. Et je me revois, on était en rang et on avançait. On a été initié à la musique classique par l'introduction du beau dans notre éducation. Et à l'heure actuelle, et c'est là que je vais faire le lien entre la nécessité d'enseigner la musique aux enfants et ce que j'ai dit précédemment, en refusant l'accès de la musique aux enfants, on leur refuse l'accès au beau. Les enfants sont imprégnés de laideur. Ils sont imprégnés de laideur visuelle, de laideur acoustique.
C'est... Et donc, Fabrice, ce serait à vous de nous faire quelques propositions du beau musical. Qu'est-ce que vous nous suggérez ?
Pour les enfants, je suggère d'écouter Mozart, Rossini, Bizet, Tchaïkovski, Glinka, Brahms. Je voudrais dire que ça fait des années que je fais des interventions scolaires. J'ai un contact très chaleureux avec les enfants. Depuis des années, je constate une évolution dans le sens de l'effondrement culturel. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, les enfants connaissaient le rhythm and blues. Il y a 10 ans, ils connaissaient encore le hip-hop, ce qu'on appelait le hip-hop, le funk, James Brown. Il y a 10 ans, ils connaissaient encore Michael Jackson, on va dire. Maintenant, ils ne connaissent même plus Michael Jackson, ils n'écoutent plus que du rap. Et qu'une seule forme de rap. Donc ils sont dans un enfermement mental parce que un ghetto mental parce que c'est une forme artistique qui n'a pas de mélodie. Donc moi je n'ai absolument rien contre le fait d'écouter du rap, ça m'arrive même d'en écouter attentivement, ça n'est pas en tant que genre que je condamne cette musique. Je condamne pas cette musique, je condamne le fait de n'écouter que cela parce que aujourd'hui, on a des enfants qui ne savent même plus une seule chanson. Ils ne savent pas ce que c'est que la mélodie. On ne peut pas vivre sans mélodie, surtout dans notre civilisation. Et je dirais même dans une civilisation dans laquelle la musique est basée sur le rythme, comme dans certaines tribus africaines, il y a tout de même de la mélodie. Et aujourd'hui, ceux qui écoutent les enfants en est totalement dépourvu. Donc, il leur manque quelque chose de spirituel. Et c'est un drame. Parce que ils se croient obligés de le faire. Ça n'est pas par choix qu'ils le font. Ils le font pour être inclus dans le groupe et tout est fait pour que ils subissent cette obligation. Donc, ils ne demandent qu'à ce qu'on leur fasse connaître autre chose. Quand je vais jouer dans les écoles, je m'aperçois qu'ils sont très ouverts et j'essaye de leur montrer les filiations entre le rap qu'ils écoutent et les racines qui sont en réalité les psalmodies des pasteurs. Lorsqu'on entend les pasteurs prêcher dans les années dès les années 30, dès qu'on a pu les enregistrer, eh bien ça se rapproche du rap. Le rap trouve sa source dans cette forme de psalmodie qui existe depuis que l'on prêche.
Que de premier abord, on dirait que c'est très éloigné et pourtant. Et si on parlait de votre discographie, vous conseillerez quoi parmi vos œuvres ?
Ah, pour les enfants, j'ai...
Peut-être deuxième concerto.
Composé en famille, oui aussi. Et j'ai composé en famille certaines chansons sur l'histoire de France. On pourrait écouter un extrait de Complainte féodale, par exemple, qui est assez drôle.
Je m'appelle Martin et je suis paysan. Je trime tous les jours le dos courbé dans les champs. Au temps où mes arrière-arrière-grands-parents, qui étaient eux aussi enfants de paysans, pour se défendre des invasions de Normands, allaient trouver refuge auprès d'un protecteur, un noble guerrier franc qui soit leur bon seigneur. À la moindre alerte, ils pouvaient se réfugier dans la tour en bois dur qui était fortifiée et ceinte d'une palissade et d'un fossé.
Ainsi va la vie dans la féodalité. Ainsi va la vie dans la féodalité.
Si je peux me permettre, dans votre disque qui s'appelle La promenade dans Paris, et il y a justement, à mon sens, hein, c'est un disque qui est très éducatif. Et il y a un titre qui s'appelle « Avoir un bon copain ».
Ah, c'est beau ça.
Qui peut être très, très adapté pour justement amener cette notion d'une musique légère, belle et à la fois joyeuse. pour ravir l'éducation de la progéniture future. Et on terminera en beauté avec l'extrait de Concerto numéro 2 en sol majeur, expiatoire, qui est inspiré de tous les styles musicaux qui existent dans la nature. Et donc, merci Fabrice d'avoir apporté vos témoignages. Merci beaucoup Marion.
Merci à vous. Merci
David à la technique. Et puis, sur ces notes en sol majeur, on va terminer cette émission. À bientôt.